Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la notion de tenseur des contraintes. Je vous donne un rappel pour commencer, c'est le théorème de Green-Ostrogratzky, ou le théorème de la divergence, qui stipule que si nous avons un patatoïde oméga, en dimension 2, en dimension 3, peu importe, avec une frontière d rond oméga orientable qui possède en chaque point un vecteur normal unitaire dirigé vers l'extérieur, alors l'écriture qui est indiquée à gauche est valable pour tout champ A. C'est d'ailleurs vrai également pour un champ de vecteurs, si l'on remplace la divergence par une divergence ordinaire, et le produit matrice vecteur AN par un produit scalaire A scalaire N. Et ici, je l'ai écrit dans le cas d'un champ matriciel, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Dans le poly, vous trouverez une démonstration de l'existence du tenseur des contraintes avec ce qu'on appelle le lemme du tétraèdre. Ici, j'ai voulu vous en donner une démonstration plus intuitive à la manière des physiciens. L'idée est que dans mon patatoïde, si je considère que c'est un morceau de milieu continu, je vais considérer qu'il est fait de particules de milieu continu qui sont agglutinées les unes contre les autres, donc il y en a un très grand nombre, et je vais regarder comment se comportent les forces dont ce patatoïde est le siège. Prenons en effet deux de ces particules, ces deux-là par exemple, qui sont en contact l'une avec l'autre. Il faut préciser qu'on néglige les interactions à distance ici. L'interaction gravitationnelle qui existe entre deux de ces points rouges éloignés est négligeable par rapport aux forces de contact qui existent lorsque ces deux particules sont très proches l'une de l'autre. Et je dirais que la force exercée par la particule de gauche sur celle de droite est peut-être comme ça, mais si c'est le cas, inversement, la force exercée par la deuxième sur la première est opposée, parce que nous avons le principe d'action-réaction. Donc ça s'écrit, si vous voulez, petit f, la force exercée par un point x sur un point x' égale moins petit f exercé par x' sur x. Bon, ça veut dire que quand je calcule la somme totale des forces, force totale exercée sur oméga, je vais l'appeler grand F, c'est donc l'intégrale sur oméga de petit f d'oméga. Mais nous voyons aussi que si j'envisage cette intégrale comme la limite d'une somme discrète, comme je l'ai fait pour définir l'intégrale de volume dans une précédente vidéo, ça correspond à la somme totale des forces exercées sur les particules rouges. Donc il ne reste plus que les forces exercées sur le bord de oméga. Et la force exercée sur le bord, on va l'appeler T. Alors c'est la même chose que petit f, mais ramené à l'unité de surface. Donc on voit que l'intégrale sur le volume se ramène à une intégrale sur le bord. Or maintenant, si nous regardons l'écriture qui se trouve tout à fait en haut à gauche, on voit que ceci n'est possible que si f se présente sous la forme d'une divergence. Donc il faut, pour que cette écriture soit valable, que petit f soit égal à la divergence de quelque chose. Comme c'est un vecteur, c'est forcément la divergence d'une matrice, que nous allons appeler sigma. Et nous obtenons donc intégrale sur oméga de divergence de sigma égale intégrale sur le bord fermé de oméga de t. Par le théorème de Green-Ostrogratzky, nous savons que l'intégrale de cette divergence, c'est l'intégrale sur le bord de sigma fois n. Et par conséquent, les deux intégrales de bord sont égales. Il en résulte que t est égal à sigma fois n. Donc, il existe un tenseur sigma, une matrice sigma, tel que le vecteur contrainte exercé sur chaque point du bord de mon patatoïde est égal à sigma fois n. Je me suis permis de retirer les intégrales de bord parce que ceci est vrai sur tout patatoïde. Donc il faut que les quantités qui se trouvent sous les intégrales soient égales partout. Alors je voudrais qu'on donne une interprétation physique de tout ceci. je vais réécrire ce que nous avons trouvé. Le vecteur T est égal à sigma fois n. Si je reprends mon patatoïde en faisant un zoom et en regardant une petite partie de la surface, donc là je suis sur la surface des ronds oméga, en un point où le vecteur extérieur est comme ceci, mon vecteur T, mettons qu'il soit comme ça par exemple, il peut être dirigé vers l'intérieur, vers l'extérieur, avec une composante qui va être normale, une composante qui va être tangentielle. Donc, c'est la somme de ces deux composantes qui me donne le vecteur T. Donc il y a une composante qui peut être de pression ou de traction, et une composante de cisaillement qui est dans le plan, tangent à la surface au point considéré. Alors je voudrais qu'on envisage les choses de manière un peu plus simple maintenant, en regardant ce qui se passe dans le voisinage d'un point. Donc je vais prendre un point d'un milieu continu, et puis je vais faire un zoom. Je vais faire un zoom et je vais regarder en ce point-là un petit élément de matériau que je dessine volontairement sous la forme d'un losange. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un tout petit losange, donc je peux considérer qu'en fait c'est une particule de milieu continu. Et je vais regarder les efforts qui s'impriment sur cette portion de milieu continu. Alors, je dirais que la force exercée, par exemple, comme ceci, c'est-à-dire cette contrainte-là, c'est une contrainte de cisaillement qui, je vais me donner des axes quand même pour que ce soit plus clair, on va se donner un X comme ceci, un Y comme ça, et on voit que la flèche bleue que j'ai dessinée, c'est quelque chose qui est orienté selon X et qui s'exerce sur une facette N, qui est en fait égal ici à EY. Par conséquent, la flèche bleue, c'est la force exercée selon X sur une facette orientée par Y, donc c'est sigma XY. Et de même, si je regarde cette flèche-là, c'est la force exercée selon Y sur une facette orientée par le vecteur N égale EX. Donc la flèche bleue, c'est sigma yx. Alors si j'ai considéré que cet échantillon de matériaux que je hachure est un petit échantillon, je peux considérer que les deux contraintes sigma xy et sigma yx sont uniformes dans le losange, et donc que ça représente les composantes du tenseur des contraintes au point central de ce losange. Et je voyais que j'ai volontairement fait en sorte que sigma xy soit égal à sigma yx, parce que si ce n'était pas le cas, le losange se mettrait à tourner. Et il n'y a aucune raison pour qu'il se mette à tourner spontanément, en raison de la conservation du moment cinétique. Donc la conservation du moment cinétique aboutit à cette conclusion que toutes les composantes sigma ij sont égales à sigma ji, ce qui est résumé dans l'équation que j'ai écrite tout en haut. Vous pouvez considérer que c'est une démonstration à la main. On peut en faire une démonstration plus rigoureuse avec des intégrales, évidemment. Donc, retenez que pour un milieu ordinaire, c'est-à-dire un milieu qui ne se met pas spontanément à tourner sans qu'on le lui ait demandé par les conditions aux limites, le tenseur des contraintes est symétrique. Il y a des exceptions, ce sont les matériaux piézoélectriques qui ont une structure moléculaire un peu particulière. Ce sont des cristaux qui développe un champ électromagnétique quand on exerce des contraintes sur leur bord. Les fluides et la plupart des matériaux que nous envisageons dans les cours de mécanique des milieux continus n'appartiennent pas à cette catégorie, donc satisfont l'équation que j'ai encadrée. Faites des exercices dans le poly.